Good Morning Business, parole de patron.
Notre invitée ce matin, c'est Sylvie Grandjean. Bonjour, vous êtes vice-présidente du métier, directrice de Redex, hein, Redex Group, groupe d'ingénierie européenne. On a ces chiffres, Sylvie Grandjean, donnés par l'INSEE hier sur la croissance qui va ralentir. Alors, on n'est pas sur un choc brutal, on est sur une sorte de poison lent. C'est ce que nous disait Dorian Rouchet de l'INSEE tout à l'heure, avec des révisions à la baisse pour le premier et le deuxième trimestre de la croissance. Qu'est-ce qui vous remonte, vous, au métier des entreprises que vous suivez?
Alors, nous avons au métier un baromètre qui prend le pouls des entreprises de taille intermédiaire très régulièrement. Et le dernier baromètre, alors c'est la seule bonne nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui, n'est pas trop mauvais quant à l'activité sur 2025. C'est-à-dire qu'il y a une certaine stabilité d'activité auprès de nos adhérents entreprises de taille intermédiaire. Voilà, c'est la seule bonne nouvelle que je peux vous donner.
Mais ça, c'est 2025, j'ai envie de vous dire, c'est presque terminé.
C'était avant la crise, avant le début de la crise. La rentabilité est en baisse, les trésoreries sont impactées, les projets d'investissement sont ralentis, voire largement retardés. Donc, on est dans une situation à l'heure actuelle d'inquiétude et d'inquiétude très forte.
Dorian Rouchet de l'INSEE nous disait « L'investissement a pourtant rebondi à la fin de l'année », ce qui veut dire que pas pour les ETI. C'est-à-dire que...
Il y a des projets d'investissement, mais la crise actuelle du Moyen-Orient fait que pratiquement toutes les grandes décisions d'investissement sont ralenties, voire retardées et repoussées.
Et aujourd'hui, la hausse des coûts, ça se voit, ça se ressent?
Alors, ça se ressent effectivement dans nos activités. Pour ma part, j'achète du tungstène, c'est x5.
Depuis 20 jours.
Depuis une quinzaine de jours. x5, hein, quand on a fait des chiffrages il y a un mois pour une machine, ça veut dire qu'on a perdu toute notre marge. Maintenant. Les bateaux, c'est 4 fois, 5 fois, 6 fois le prix de ce qui était il y a juste avant la crise. L'énergie, bien sûr, pour l'instant, on le voit pas concrètement parce qu'on est souvent couvert par des
contrats longs,
des contrats. Donc pour l'instant, on ne le voit pas, mais ça déstabilise tous les projets d'investissement et les ETI qui sont fortement industrielles et très fortement exportatrices, elles sont très impactées à l'heure actuelle par la crise du Moyen-Orient.
Mais ce qui veut dire que, par exemple, pour une activité comme la vôtre, vous me dites, là, ma marge, elle arrive à zéro, vous tenez comme ça 3 mois, on continue et puis on attend de voir, ou il y a des productions que vous arrêtez?
Non, on n'arrête pas. Quand on est un chef d'entreprise, on n'arrête pas. On rebondit, on trouve d'autres solutions, on essaie de trouver des alternatives. Mais ça handicape encore plus les entreprises de taille intermédiaire, telle que la mienne, alors qu'on sortait de crise en crise en crise et on se disait ça y est, bon, on va recommencer à retrouver une certaine stabilité, et en fait on n'a pas cette stabilité. Et les clients potentiels à l'international ont aussi ces impacts qui font que, est-ce qu'il y aura des gros projets d'investissement à l'international? On ne sait pas.
Vous exportez combien de votre activité?
95% ouais. du chiffre d'affaires est réalisé hors de France et presque 60% en Europe, donc au moins là on est à peu près sécurisé, mais le reste, entre le mastodonte américain et puis l'invasion chinoise, il faut qu'on se batte.
Qu'est-ce que vous... J'ai pas envie de vous poser cette question, parce que je veux dire, qu'est-ce que vous demandez? Je sais pas si vous demandez
quelque chose,
j'entends des politiques, on sera avec Aurélie Trouvé dans un instant, qui aujourd'hui veulent qu'on sponsorise le prix de l'essence, qu'on arrête avec des taxes. Qu'est-ce que vous voyez comme aide à la sortie de crise?
Alors, ce que l'on voit, ce que nous demandons, c'est que l'Europe, c'est une opportunité, c'est une chance, hein, entre la Chine et le bloc américain. On a une chance, c'est l'Europe. Et l'Europe devrait être du côté des entrepreneurs, du côté des entreprises, et les aider à se défendre, et non pas essayer de trouver des solutions en interne, en Europe, qui nous contraignent. Donc, s'il y a une seule chose que l'on demande, c'est moins de contraintes en Europe, moins de normes, et plus d'actions pour mettre en avant la compétitivité de l'Europe dans sa globalité. L'énergie, bien sûr, il faut trouver une solution énergétique au niveau de l'Europe et pas au niveau de la France ou au niveau de l'Allemagne. Il faut trouver que
c'est
notre échelle, c'est l'Europe, et c'est à cet endroit-là qu'il faut agir.
Je voudrais qu'on dise un mot quand même des questions d'alternance, parce qu'on a vu le chômage des jeunes là qui repart à la hausse. C'était un dispositif qui marchait bien, que vous utilisez, je pense, dans votre entreprise,
exactement.
Avec des aides qui sont revues là pour le coup à la baisse, notamment pour ceux qui sont Bac plus 3 et après, dans les grandes entreprises. Ça, pour vous, c'est c'est un cadre qu'on n'aurait pas dû toucher.
C'est dommage. C'est dommage, ça marchait parfaitement bien. C'était du gagnant-gagnant-gagnant. Gagnant pour l'entreprise, gagnant pour le jeune, gagnant pour l'école ou l'université. Et on a tout détricoté pour des montants d'aide. Alors, c'est là que le vocabulaire n'est pas adéquat. Ce n'est pas une aide. L'apprentissage, c'est financé par les entreprises. C'est les entreprises, par leurs taxes d'apprentissage, qui payent les écoles, qui payent les jeunes. Et en plus, on leur offre un salaire et en plus on leur offre des compétences qui sont nécessaires sur le marché du travail. Si on arrête cette symbiose qui marchait bien, eh bien ceux qui vont en pâtir les premiers, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui ne vont pas pouvoir avoir les compétences qui sont en adéquation avec les demandes du marché.
Mais puisque vous dites que ce n'est pas une aide, vous pourriez le faire sans cadre réglementaire.
Mais parce qu'en fait, l'État prend d'une main pour redonner de l'autre. Et entre-temps, vous avez nourri des structures qui servent à quoi? Donc en Allemagne, j'ai une entreprise en Allemagne, il n'y a pas de taxe d'apprentissage, mais j'ai quand même des apprentis. Je prends sur 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans parfois même, et que j'accompagne dans les montées en compétences.
Vous dites carrément, enlevons la taxe et enlevons le process.
Il y a des taxes comme ça qui sont collectées d'un côté et qui sont redonnées de l'autre, mais pas en juste proportion. La même chose avec la région a mis en place une taxe transport à 0,25% de la masse salariale. C'est non négligeable. À qui ça va profiter, cette taxe que la région collecte? Pas à mes salariés qui habitent à Ferrières en Gâtinais. Parce que Ferrières en Gâtinais, c'est un territoire à côté de Montargis où il n'y a pas de transport en commun. Voilà. Donc, ces taxes qui sont prises, ça obère notre façon de pouvoir rémunérer correctement nos salariés.
Il vaudrait mieux les aider vous-même à payer le carburant. Ça serait plus intelligent.
Je préférerais pouvoir faire des augmentations plus substantielles.
Merci beaucoup, Sylvie Grandjean, d'être venue ce matin.